Livre 2, chapitre 5. De quelle manière mourut Nahiam? Première note. Les domaines de Nahiam, successivement agrandis aux dépens des apanages d'autres provinces mongoles, formaient ce qu'on nomme aujourd'hui la Grande Mandchourie, au nord-est de Pékin et à 20 journées de marche de cette capitale. Oui. Livre 2, chapitre 6. Kobilai impose silence aux Juifs et aux Mahométans. Première note. Pour l'extrait suivant. Kobilai, ayant ainsi apaisé le tumulte, s'en retourna rempli de gloire et de joie de sa victoire à sa ville royale de Kambalu. La note. Kambalik, ou la ville de Khan, aujourd'hui Pékin. P. Livre 2, chapitre 10. Description de la ville de Kambalu. Première note. Kambalu, dans la province du Kathé, ne serait autre, selon M. Potier, que Pékin, ancienne capitale effective de l'Empire chinois. Kubilai, délaissant l'ancienne ville, dit-il, en fit édifier tout auprès une nouvelle, séparée de la première par une rivière qui est un affluent du pays Ho. C'est dans cette nouvelle ville que se trouvent encore aujourd'hui les palais impériaux et les grands établissements publics, dont plusieurs datent de l'époque mongole. Toutefois, certains commentateurs nouveaux émettent des doutes au sujet de cette assimilation. Livre 2, chapitre 21, de la monnaie du Grand Khan. Première note, pour l'extrait suivant. Cette écorce, fine comme papier, étant retirée, on taille en morceaux de diverses grandeurs sur lesquels on met la marque du prince et qui ont diverses valeurs, depuis la plus petite somme jusqu'à celle qui correspond à la plus grosse pièce d'or. La note. Avons-nous besoin de faire remarquer qu'il s'agit du papier-monnaie fabriqué avec les fibres du mûrier qui, encore aujourd'hui, sont particulièrement employés pour la confection du papier japonais, si recherché parmi nous? Rubricus, chapitre 39, parle aussi de ce papier-monnaie qui avait déjà cours sous le prédécesseur de Kubilai. M. Potier, qui a compulsé les anciens documents officiels, dit que sous le seul règne de Kubilai, il fut émis pour 1,872,000,000 de papier-monnaie, sans que ces émissions correspondissent, bien entendu, à aucune réserve équivalente des sommes qu'elles représentaient. Système financier d'une commodité sans égale. Livre 2, chapitre 25. De quelle boisson on use dans la province du Kathé à la place du vin? Première note pour l'extrait suivant. Ils font dans la province du Kathé une fort bonne boisson composée de riz et de plusieurs parfums, laquelle, par sa douceur, surpasse la bonté du vin. La note. Le vin de riz, ou saké, dont on obtient par la distillation l'arak, eau-de-vie très enivrante, est encore la boisson ordinaire des Chinois et des Japonais. On s'étonne, dit M. Potier, que Marco Polo, en parlant de la boisson des Chinois, ne fasse pas mention du thé, qui pourtant était cultivé en Chine longtemps avant le passage du célèbre voyageur. On doit croire que les Mongols préféraient encore leur kumi et d'autres boissons plus enivrantes que le thé. Livre 2, chapitre 26. Des pierres qui brûlent comme le bois. Première note. Les pierres noires dont il est ici question ne sont autre chose que la houille, dont il est fait mention dans des livres chinois datant d'au moins 20 siècles. La houille est très abondante, surtout dans les provinces septentrionales de la Chine, où l'on en fait une grande consommation ménagère. P. Livre 2, chapitre 27. De la rivière de Polizachniz et de son pont magnifique. Première note. Ce pont existe encore, mais, bien que très beau, il n'est plus tel que le décrit Marco Polo. Il a dû être reconstruit. P. Livre 2, chapitre 29, du royaume de Tainfu. Première note pour l'extrait suivant. On vient au royaume de Tainfu. La note. Tai Ganfu, aujourd'hui chef-lieu de la province de Shanxi. Livre 2, chapitre 32. De la ville de Kwinkinafu. Première note pour l'extrait suivant. Vous trouverez la grande ville de Kwinkinafu. La note. Aujourd'hui, Singanfu. Oui. Livre 2, chapitre 35. De la province de Sindimfu. Première note pour l'extrait suivant. La ville principale s'appelle aussi Sindinfu. La note. Ancienne capitale du royaume de Chu, aujourd'hui Chintu, qui compte, dit-on, 1,5 million d'habitants. Livre 2, chapitre 36. De la province de Tibet. Première note. La grande province du Tibet fut investie et assiégée par les armées de Mangu Khan au milieu du XIIIe siècle. Livre 2, chapitre 38. De la province de Gandu. Première note pour l'extrait suivant. On trouve là en quantité du girofle que l'on cueille des arbres qui ont de petites branches et la fleur blanche, dont le bout rapporte une grande quantité de ses clous. La note. On sait que le clou de girofle est le bouton d'une fleur cueillie avant l'épanouissement. Livre 2, chapitre 39. De la ville de Karaiyam. Première note. Pour l'extrait suivant. Ils se servent pour monnaie de certaines coquilles d'or et blanches que l'on trouve dans la mer. La note. Les coquilles dites porcelaines. P. Livre 2. Chapitre 40. D'un pays situé dans la province de Karaiyam où il y a de très grands serpents. Première note. Ces serpents du genre bois existent réellement tels que les décrit Marco Polo. Les Chinois les nomment Maite Uche, ou serpents qui baissent la tête, parce qu'ils se tiennent ainsi en marchant. Ils atteignent jusqu'à 15 à 20 mètres de longueur. Claproth. Livre 2, chapitre 44. De la mer de Mian et du tombeau du roi. Première note. Les découvertes faites au temps moderne dans ces régions confirment les assertions de l'ancien voyageur. Livre 2, chapitre 46, de la province de Kanjigu. Première note. Après de longues discussions sur la situation de ce royaume de Kanjigu, M. Potier croit pouvoir affirmer qu'il correspondait à la province de Papé-Sifu ou des 800 belles femmes situées entre le Laos et l'Empire birman. Livre 2, chapitre 47, de la province d'Amu. Première note. C'est, dit M. Potier, la Nam ou Tung King qui est décrit sommairement dans ce chapitre. Livre 2, chapitre 48, de la province de Toloman. Première note. Aujourd'hui, département de Taiping. Livre 2, chapitre 49, de la ville de Jingui. Première note, pour l'extrait suivant. L'on marche pendant 12 jours le long d'une rivière jusqu'à ce que l'on trouve une grande ville nommée Fungul. La note, aujourd'hui détruite. P. Livre 2, chapitre 51, des villes de Kudinfu et Singuimatu. Première note pour l'extrait suivant. Une grande ville nommée Kudinfu. La note. Yanchiu, capitale de la province où naquit le philosophe Confucius. Confucius. P. Deuxième note pour l'extrait suivant. On rencontre une autre ville remarquable nommée Singuimatu. La note. Tiwingchiu, chef-lieu d'arrondissement appartenant à la province de Changtun. P. Livre 2, chapitre 52. Du grand fleuve Karamoran et des villes Konigangui et Kaigui. Première note pour l'extrait suivant. On rencontre un grand fleuve nommé Karamoran. La note. Ou fleuve noir à cause de ses eaux troubles. c'est le fleuve jaune actuel. Livre 2, chapitre 53. De la province de Manji et de la piété et de la justice du roi. Première note. Sous ce nom se trouve désignée la Chine méridionale, que le fleuve jaune sépare du Cathay ou Chine septentrionale. Livre 2, chapitre 56. Des villes de Panchi et de Chain. Première note. Pour l'extrait suivant. Le chemin qui mène de Kunigangui à Panchi est pavé de belles pierres à droite et à gauche. La note. Chaussée qui suit le canal impérial. P. Livre 2. Chapitre 58. Comment la ville de Sianfu fut prise par machine. Première note. Ce chapitre a donné lieu à de nombreux commentaires, car, outre que les textes de Marco Polo offrent beaucoup de variantes, des historiens chinois qui parlent de ce siège semblent dire qu'on y fit usage de véritables canons à feu. Mais ce sont là de simples hypothèses. La question de priorité d'invention de la poudre est encore trop mal élucidée pour que l'on puisse rien admettre de certain à ce sujet. Selon les uns, les premiers corps explosifs seraient d'origine asiatique. Selon d'autres, l'Europe pourrait en revendiquer l'invention. Toujours est-il que notre auteur ne dit rien de particulier à ce propos. Livre 2, chapitre 62. De la ville de Xinjingui et du massacre de ses habitants. Première note, pour l'extrait suivant. Lorsque Baiyam, général des Tartares, assiégeait la province de Manji, il envoya de certains chrétiens que l'on appelait Alain. La note. Ces Alains, d'origine scythe, envahirent l'Asie dans la seconde moitié du IIIe siècle, en compagnie des Vandales, des Suèves et des Burgondes, ou Bourguignons. Ils habitaient des contrées du Caucase, où ils sont aujourd'hui connus sous le nom d'Asset. Ils furent subjugués en partie par les lieutenants de Genghis Khan. Et la population, emmenée en Tartarie et en Chine, se retrouve sous le règne de Kublai Khan, petit-fils de Genghis. P. Livre 2, chapitre 64. De la noble ville de Quincy. Première note, pour l'extrait suivant. Il y a une autre ville remarquable nommée Quincy. La note. Hang Chiu, ancienne capitale de l'Empire des Song, qui fut un des principaux centres où se forma la civilisation chinoise. Deuxième note, pour l'extrait suivant. Du côté du Midi, il y a un grand lac dans l'intérieur des murailles de la ville, qui a 30 milles de circonférence. La note. La grande géographie chinoise dit qu'en 1354, les murs de cette ville avaient 6400 changs, ce qui équivaut à environ 24 kilomètres. Livre 2, chapitre 69, de la ville de Fugui. Première note, pour l'extrait suivant. On rencontre la ville de Fugui. La note. Fuchiu, ville maritime, dont l'arsenal a été détruit en 1884 par la flotte française, sous les ordres de l'amiral Courbet. Livre 2, chapitre 70. Des villes de Zeytun et de Figui. Première note, pour l'extrait suivant. On va à la ville de Zeytun. La note. Tiyuan Chiu, dans la province de Fujian. Deuxième note, pour l'extrait suivant. Nous avons jugé à propos de passer les autres sous silence pour parler de l'Inde. La note. Comme on le verra, le voyageur comprend sous ce nom tous les territoires asiatiques alors connus qui ne font pas partie de l'empire du Grand Khan, à commencer par le Japon qu'il appelle Zipangu.